j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie le professeur Sébastien Jaudoin. Sébastien Jaudoin est professeur agrégé et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les droits humains, la santé et l'environnement à l'Université McGill. Il est directeur du programme de recherche sur l'action climatique inclusive du handicap avec COP27 qui avait lieu en Égypte en novembre, COP15 en ce moment à Montréal, tout près de nous, la biodiversité. Les enjeux de réchauffement climatique sont au cœur des discussions planétaires et les personnes en situation de handicap ne font pas partie de l'équation, malheureusement. Professeur Jaudoin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une spécialisation dans un sujet qui est à la fois pointu, mais très large.
Oui, ben dans le fond, moi, ça fait 15-17 ans que je travaille sur les changements climatiques puis l'environnement, mais ça fait 4 ans, à la suite d'une expérience personnelle ayant développé un handicap, là, ça fait 4 ans que j'ai commencé à travailler sur l'intersection entre les droits des personnes handicapées puis la protection de l'environnement.
Et là, malheureusement, le constat que vous avez fait est assez alarmant.
Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on regarde spécifiquement les politiques climatiques, que ce soit au Canada ou que ce soit autour du monde, ce qu'on voit, c'est que les personnes handicapées sont rarement mentionnées. Et quand ils sont mentionnés, c'est de manière très vague, très générale, sans qu'il y ait des mesures spécifiques pour rencontrer leurs besoins, respecter leurs droits, intégrer leurs connaissances, leurs idées dans les efforts pour protéger l'environnement puis lutter contre les changements climatiques.
Oui, souvent, la situation des personnes handicapées, quand il en est question, c'est du même souffle que d'autres personnes vulnérables, que ce soit les enfants, les personnes âgées, ainsi de suite, mais il n'y a rien qui est spécifique. Vous avez tout récemment déposé une analyse systématique des droits des personnes handicapées dans les politiques climatiques au Canada. Cette analyse fait le constat non seulement des politiques pour le gouvernement fédéral, les provinces, mais également auprès de grandes villes canadiennes. Et c'est là que vous avez pu mettre en chiffres, je dirais, la poussité des mesures qui sont destinées aux personnes handicapées.
Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, on a trouvé qu'environ 68% des politiques qu'on a systématiquement collecté et analysé, il y en avait 84, on a trouvé que oui, il y avait au moins 68% de ces politiques-là qui avaient au moins une référence aux personnes handicapées, mais au-delà de la simple référence où est-ce que les personnes sont dans une liste de groupes vulnérables, on n'a pas trouvé aucune politique qui avait vraiment des mesures en place pour assurer la participation des personnes handicapées et comprendre leurs besoins et y répondre. Et c'est problématique pour deux raisons. La première, c'est que les personnes handicapées sont plus à risque dans les événements climatiques, justement parce qu'ils sont négligés. Et deuxièmement, on voit que les gouvernements mettent en place des mesures pour d'autres groupes. Oui. Mais pour les personnes de la communauté handicapée, ils sont toujours négligés.
Oui, je pense que la vulnérabilité des personnes en situation de handicap dans des situations à l'occasion de catastrophes climatiques, parce qu'il y en a et il va y en avoir d'autres, on peut penser par exemple à une vague de chaleur. Je pense que c'est assez bouleversant de constater dans votre étude ou dans d'autres recherches qui ont été faites à quel point les personnes en situation de handicap tombent comme des mouches, si je peux dire, au moment de vagues de chaleur, la proportion de personnes handicapées dans les décès relevés, par exemple en 2018 à Montréal ou en 2021 à Vancouver, là, c'est énorme.
C'est 3/4 des victimes. Donc, c'est le groupe qui est surreprésenté au niveau de la mortalité. Puis, dans le fond, c'est ça, avoir un handicap, c'est le plus gros facteur à risque de mort dans ces vagues de chaleur-là. Plus que, disons, être âgé, qui est quand même un facteur aussi, ou plus que d'être dans une situation de pauvreté, qui est également un facteur. Et la raison, c'est pas parce que nécessairement que les gens sont plus vulnérables au niveau physique, évidemment, ça peut être le cas, mais vraiment, en 2022, au Canada, les gens ne devraient pas mourir dans une vague de chaleur si les mesures sont en place pour communiquer avec eux et elles, pour les prévenir, pour assurer leur sécurité, puis leur résilience. Donc, quand on regardait, par exemple, les plans qui étaient en place avant l'hiver scolaire de 2018-2021, ils mentionnaient les personnes âgées comme groupe prioritaire, puis ils mentionnaient les enfants qui, en passant, ne meurent pas dans l'hiver scolaire au Canada. Mais il n'y avait aucune mention des personnes handicapées qui pouvaient être plus à risque. Et là, on parle de personnes qui ont la schizophrénie, qui ont le diabète, qui ont les maladies cardiovasculaires.
Et parce que souvent, ces mesures d'atténuation, par exemple pour des personnes âgées qui sont vulnérables, on en convient tout à fait, ça suppose de les amener, un, de les avertir, qu'elles soient mises au courant de la situation, du danger imminent d'une vague de chaleur qui est anticipée, et deux, de pouvoir leur offrir un îlot de fraîcheur, si je peux dire, c'est-à-dire de les déplacer dans un endroit où elles pourront être... un endroit où elles ne suffoqueront pas de chaleur. Mais dans les deux cas, pour une personne handicapée, ça, c'est des obstacles. Ça.
Oui, donc on a vu, par exemple, là, à Vancouver, qu'il y avait des îlots de refroidissement, mais ils n'étaient pas accessibles aux personnes qui, par exemple, étaient à mobilité réduite. Donc ça, c'était un problème. Mais dans le fond, quand on est à protéger les gens durant une vague de chaleur, on a déjà... perdu une partie de la bataille. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est assurer que prendre des mesures à long terme qui font que les gens sont résilients quand il y a des vagues de chaleur, puis ils vont en avoir plus, puis ils vont être plus intenses. Donc, on parle, par exemple, d'assurer que les gens ont accès à l'air climatisé, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est, disons, s'il y avait une plus grande, s'il y avait un accès équitable à l'air climatisé à Montréal, il y a des personnes qui mourraient normalement dans une chaleur.
D'accord. Et ça suppose que les... Et il faut aller dans les foyers aussi. Pas, quand je dis foyer, je parle du domicile de la personne, là, de voir si son installation est adéquate, qu'est-ce qui va survenir s'il y avait une vague de chaleur. Quand il y a des interventions dans la résidence d'une personne qui est en situation d'handicap, je ne sais pas si systématiquement on se pose cette question-là.
Bien, clairement, on ne se la pose pas, mais... Ce qui est intéressant, c'est que les thermopompes, là, ce qui permet d'avoir de l'air climatisé l'été et de la chaleur l'hiver, on sait que c'est en fait la forme de chauffage la plus économe, la plus efficace. Et donc, s'il y a un programme, par exemple, pour permettre à des immeubles d'utiliser, par exemple, des thermopompes pour se chauffer, ça va nous aider non seulement à réduire notre dépendance sur le gaz naturel, ou le mazout, là, il y a déjà des programmes qui font ça. Pas le gaz naturel, mais le mazout. Mais aussi, ça veut dire que l'été, les gens sont résilients au niveau des impacts climatiques. On a besoin de plus de mesures à long terme qui pensent vraiment aux besoins de ces gens qui sont placés finalement dans des situations de vulnérabilité.
Et la participation des personnes en situation de handicap à l'élaboration de ces polices-là, si on veut vraiment aller plus loin en amont, à ce moment-là, il y a une absence autour de la table.
Oui, c'est ça. Puis moi, je dis toujours que les personnes handicapées, on est les personnes qui ont de l'expertise, on a besoin d'audace, on a besoin d'être innovateur pour justement contourner les obstacles qui se présentent dans la vie de différentes façons. Puis on a finalement les connaissances requises pour développer des politiques qui sont plus inclusives et qui vont pas non seulement rencontrer les besoins de la communauté des personnes handicapées, mais finalement, ce qu'on voit, c'est quand on a des, par exemple, des formes d'évacuation qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, ça ne bénéficie pas juste les personnes qui utilisent des chaises roulantes, ça va bénéficier la personne qui, dans un événement climatique sévère, va peut-être avoir perdu connaissance, puis cette personne-là on peut la sortir de l'immeuble. Donc, on parle d'idées, de connaissances qui finalement profitent non seulement aux personnes handicapées, mais à tous. Mais encore là, il faut reconnaître finalement, c'est ça, la valeur des connaissances que les personnes handicapées ont à apporter à ce genre de discussion.
L'analyse que vous venez tout juste de déposer, parce que c'est évidemment une analyse faite par quelqu'un qui a votre compétence à titre de professeur agrégé et titulaire d'une chaire à l'Université McGill. Et cette contribution-là, comment est-ce qu'elle va être diffusée? Est-ce qu'elle va se retrouver sur le bureau de décideurs ou comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser comme levier?
Oui, ben d'abord, je suis agréablement surpris de voir qu'il y a différents gouvernements, dont le gouvernement fédéral, qui, à la suite de la diffusion du rapport, nous ont contactés
D'accord.
pour avoir des rencontres, pour comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Donc déjà, je trouve que ça, c'est assez positif. Les gouvernements réalisent surtout par exemple au niveau fédéral, parce qu'il y a une loi qui vient d'être adoptée sur l'accessibilité.
Exact.
Mais d'un autre côté, il y a d'autres ministères qui agissent pas dans ce sens-là. Donc, il y a déjà des ouvertures à ce niveau-là. Mais sinon, j'espère aussi que les groupes de la défense des personnes handicapées vont pouvoir aussi s'en servir dans leur mobilisation puis dans leur plaidoirie aussi. Parce que dans le fond, ultimement, cette recherche-là, il faut qu'elle bénéficie la communauté. Puis il faut que la communauté s'en approprie pour que ça devienne finalement une priorité pour tout le monde.
Exact. Et comme vous l'avez mentionné, le design universel, que ce soit dans le bâti ou l'immobilier urbain, profite à tout le monde et ça facilite la vie autant d'une mère valide qui a un enfant dans une poussette que d'une personne âgée ou d'une personne qui est dans une situation de handicap. Et de la même façon, de prévoir la participation de personnes en situation de handicap va permettre d'inclure d'autres groupes de la population de toute manière qui doivent affronter des périls climatiques qui n'iront pas en s'amenuisant, ça, on en convient tout à fait. Ben, professeur Jodoin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de votre dévouement et que si les circonstances de la vie vous ont amené à orienter votre carrière dans ce sens-là, ben c'est prometteur parce que je pense que vous allez pouvoir aider le débat à s'élever de différentes façons. Merci, puis au plaisir.
Merci, au revoir.